Vous écoutez un podcast Top Music.
Top Music, premier sur la région.
Top Music.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.
En fait, on est tous un petit peu, même sans être influenceurs dans la vraie vie, on est tous un peu des influenceurs. Le terme est péjoratif. J'ai deux ados à la maison et je leur dis, ne me dites pas que vous voulez devenir influenceur. Aujourd'hui, la chose dont je suis fière, c'est que les gens qui me connaissent en dehors des réseaux sociaux me retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, je ne me suis pas inventé une image ou autre. C'est celle que je suis au quotidien.
Sur le podium, je reçois Mademoiselle Sophie, et ce que l'on appelle une influenceuse. Autrement dit, un relais d'opinion, intermédiaire entre un produit, une marque et sa communauté. Ses followers, comme on les appelle, sont plus de 13 000 sur Instagram. 13 000 fans qui scrutent ses conseils, son look, sa vie sur les réseaux sociaux. Mais comment devient-on influenceuse ou créatrice de contenu, comme préfère dire Sophie? Y a-t-il des méthodes, des techniques? Peut-on gagner sa vie en la partageant ainsi? Mannequin dès l'adolescence, Sophie a toujours travaillé son style. Elle nous partage son parcours, sa vision de son métier et son éthique. Car dans ce monde de l'image et de l'éphémère, on peut aussi être responsable et engagé. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline.
Alors Sophie, vous avez toujours aimé la mode, vous avez toujours aimé tout ça, mais de là à devenir ce qu'on appelle aujourd'hui influenceuse, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé.
Je crois que justement aussi c'est la particularité, c'est que j'ai pas voulu devenir influenceuse, je le suis devenue un petit peu en partageant plus mon métier donc de mannequin, en partageant mon quotidien, mes looks, un petit peu ma vie de famille, et sans le vouloir, mon profil a plu, a attiré différentes marques à moi et je suis devenue créatrice de contenu.
Influenceuse, ouais, créatrice de contenu, c'est vrai que je sais que vous préférez ce terme. Pourquoi l'envie de partager donc vous êtes mannequin photo?
Oui, c'est ça.
Depuis très jeune.
C'est ça, mannequin photo depuis très jeune. Et j'ai du coup déjà cette facilité à montrer et à jouer de mon image, entre guillemets. Et du coup, pour moi, c'était une opportunité professionnelle qui finalement me plaisait déjà. Il faut aimer son image. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a forcément 100% confiance en soi, attention, hein, mais c'est une mise en avant quotidienne avec laquelle il faut justement être en accord avec son image à la base.
Mais lorsqu'on fait des photos, on pose,
oui.
On s'habille, un styliste va demander à ce que vous fassiez un shooting, comme on dit, hein,
oui.
Ou une marque, ou peu importe. Mais les réseaux sociaux, c'est vous-même qui vous mettez en scène. C'est quoi la différence? Alors, où est la nuance, en fait?
Alors, il faut quand même savoir que moi, donc, je suis mannequin depuis mon plus jeune âge. J'étais également conseillère en images et consultante en images pour diverses marques. Donc, j'avais déjà un petit peu ce goût et cette vision des choses par rapport à la mode que moi, j'aimais au quotidien utiliser à travers mes looks. Et je pense que c'est justement, c'est pas le shooting photo en soi qui a plu aux potentiels clients des marques, mais c'est plus la manière dont je mettais les habits en avant, alors qu'aujourd'hui, c'est pas que les habits qui sont mis en avant, ça peut être des produits de beauté, ça peut être des choses qui sont liées à mes activités en dehors du mannequinat.
Mais c'est aussi votre vie, parce que vous mettez en avant,
oui,
vos enfants, votre mari.
Mais tout ça aussi,
c'est un peu intrusif, non ?
C'est intrusif, mais encore une fois, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on montre ce qu'on a envie de montrer. Donc les gens ont réellement l'impression d'être dans ma vie et je partage des choses sincères, mais c'est tout de même moi qui décide de ce que je vais mettre en avant et du coup, j'arrive quand même un peu à cadrer les choses. Donc je donne évidemment de moi, de ma famille, de nos moments, mais ce que j'ai envie de partager. Et c'est pas l'idée n'est pas de dire je montre que les belles choses. Après, on peut partager de tout. Moi, je scinde quand même toutes les choses que je mets en avant sur les réseaux.
Donc, vous ne mettez pas en vitrine, entre guillemets, toute votre vie?
Non, non plus. Non, non. Et puis, je ne suis pas... Parce que justement, je veux aussi bien qu'on scinde les choses entre influenceuse et créatrice de contenu, parce qu'il y a quand même beaucoup de polémiques autour de l'influence et des gens de la télé-réalité qui sont aujourd'hui devenus des influenceurs et qui, eux, partagent leur quotidien, mais où c'est réellement... Je pense qu'au réveil, la première chose qu'ils font, c'est ils commencent à filmer leur journée. Moi, c'est vraiment bien plus subtil.
C'est du marketing.
Voilà.
Justement, c'est quoi cette différence? Parce que, oui, influenceur à la base, j'influence autrui.
Oui.
On est d'accord.
Je pense que en fait, on est tous un petit peu, même sans être influenceurs dans la vraie vie, on est tous un peu des influenceurs parce que on va être à table avec des gens et puis elle va vous demander « Ah tiens, elle est sympa, la veste que tu portes aujourd'hui. » En fait, c'est comme un peu le bouche à oreille qui existe depuis toujours, ouais. Mais qui est forcément à une dimension bien plus élevée sur les réseaux sociaux. Donc, on influence, mais je trouve que c'est, oui, le terme est péjoratif à mon sens. C'est pour ça que j'aime pas du tout.
Vous savez qu'il y a une école, paraît-il qu'il y a une école d'influenceurs qui vient de se créer.
Mon Dieu, l'horreur. Alors moi, c'est ce que j'explique à mes enfants aujourd'hui. Moi, j'ai deux ados à la maison et je leur dis ne me dites pas que vous voulez devenir influenceur parce que je pense que c'est pas. Même si aujourd'hui, évidemment, ça fait rêver. Des gens partent à Dubaï, vivent une vie incroyable et que pour la nouvelle génération qui arrive, ça paraît simple. Alors que quelque part, je me dis non, mon Dieu, tout mais pas ça quoi.
Eh ben c'est marrant, pourquoi ?
Mais moi, en fait, moi, je suis contente de me dire c'est une part de mon métier aujourd'hui. Mais si demain ça s'arrête, ma vie continuera parce que j'ai mon métier à côté. Ouais, c'est quelque chose qui est venu se greffer, on va dire, à ma vie professionnelle et que je dénigre pas du tout parce que je suis bien contente aujourd'hui de pouvoir le faire. Mais je pense que c'est comme tout, il faut cadrer les choses et malheureusement, on voit aussi beaucoup d'abus dans ces métiers-là et je suis pas persuadée que ça puisse, à travers les années comme ça, continuer là où aujourd'hui on en est.
Parce que c'est vrai, on peut dire qu'avant, on achetait des magazines pour regarder le backstage d'une séance photo ou bien une personne connue dans sa cuisine, dans son salon, etc. Aujourd'hui, on n'a plus besoin.
Ah non, aujourd'hui, on allume son téléphone et voilà.
On allume son téléphone ou Instagram.
Après, je pense que c'est une manière de communiquer et le marketing qui va évoluer dans ce sens. Ça, c'est une certitude. Les choses vont évoluer, vont continuer, mais je pense qu'il va falloir cadrer les choses justement pour qu'on puisse retrouver quelque chose de plus sain derrière tout ça, qu'on peut communiquer et amener les gens à potentiellement avoir envie d'acheter quelque chose, mais aussi longtemps que ça reste, je sais pas trop comment le dire, mais moi tous ces abus et toutes ces choses-là, je les trouve catastrophiques, et parce que c'est malheureusement au détriment de gens qui nous suivent et qui croient
qui sont influençables.
Voilà.
Parce qu'ils ont besoin de regarder comment vous faites pour pouvoir...
Oui. Alors moi, je me dis à mon échelle, qui est loin d'être une échelle comme peuvent avoir certains influenceurs, mais quand moi, je me rends compte à quel point l'impact est important sur la vie des gens, j'ose imaginer justement l'abus qu'il peut y avoir dans d'autres situations. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur, moi, dans ce métier, qui justement me donne toujours envie de dire, ah tiens, non, influenceuse, c'est pas un joli nom pour... Voilà. Parce que moi, je sais que quand je travaille avec des marques, ce que je leur dis aussi tout de suite, c'est que je suis pas un panneau publicitaire. Donc moi, je peux leur créer du contenu, donc je leur vends un petit peu mon image et je leur mets en avant les produits. Mais moi, il est hors de question que, par exemple, je sois rémunérée sur les ventes, ce qui se faisait beaucoup au départ de l'influence. En fait, il y a différents types de rémunération. Il y a des personnes qui sont rémunérées, plus elles vont vendre, elles vont toucher une commission sur le nombre de produits vendus. Or, moi, c'est des choses que je refuse catégoriquement parce que on n'est pas...
Vous n'êtes pas un commercial de la marque.
Non, pas du tout.
Donc, en fait, vous êtes payé au cachet, enfin, vous avez un contrat.
Des contrats, des budgets qui sont alloués en fonction des prestations, en fonction de la demande, parce qu'il y a certains clients veulent juste des photos, d'autres veulent de la vidéo. C'est vraiment au cas par cas.
Mais ça veut dire que quoi ? Que par exemple, si, admettons, un produit de beauté, une crème, admettons, vous demande de la représenter, vous n'allez pas poser devant une caméra en disant « cette crème est fantastique, elle vous donne bonne mine ».
Non, déjà, moi, la base, c'est qu'il faut que moi, je m'y retrouve. Il faut que je retrouve, justement, vous parliez d'éthique dans la bio, et je trouve que c'est important, c'est que moi, il faut que ça me corresponde. C'est ce que je dis souvent aux gens que je rencontre, c'est que moi, qui ai des enfants qui comprennent aujourd'hui l'envers du décor et ce métier-là, je ne pourrais pas me permettre de mettre en avant quelque chose auquel je n'adhère pas juste pour de l'argent. À ce moment-là, je suis mannequin, je suis payée pour faire la publicité et uniquement la photo du produit.
Il y a moins d'éthique là ?
C'est pas qu'il y a moins d'éthique, mais c'est qu'en fait, on ne nous demande pas de le tester. On nous demande juste d'avoir cette jolie photo qui sera publiée dans les magazines, qui sera publiée sur les panneaux publicitaires. On ne nous demande pas de parler de ce produit.
Ouais.
Ça, c'est différent. Enfin, là, c'est plus...
On en parle... Quand même, parce que quand on voit une photo, je sais pas...
Mais c'est plus l'image, je vais pas mettre...
Y sur une star, on se dit, waouh, elle est belle parce qu'elle a utilisé cette crème. C'est un peu quand même la même chose.
Mais la mise en avant est différente parce que sur les réseaux sociaux, on va vous demander de dire qu'elle est bien, cette crème.
Alors que surtout vous voir l'utiliser.
Voilà. Et moi, vraiment, dans l'absolu, tout ce que j'utilise, c'est ou des choses que moi, j'utilise réellement. Et donc, ouais. Avant d'en parler, j'aurai moi-même mon ressenti à travers le produit qui sera mis en avant. Et sinon, je ne le fais pas.
D'accord.
Voilà.
OK. Donc, en fait, la différence par rapport au mannequinat, peut-être, oui. On va dire, c'est que le mannequinat, vous prêtez votre image à un produit, alors que sur les réseaux, ce métier de créateur de contenu... Vous adhérez vraiment au produit, vous voilà. L'utilisez et vous montrez comment vous l'utilisez.
Exactement, c'est ça. Voilà, c'est que les gens sur les réseaux sociaux, donc sur la photo, bah en fait, elle est jolie la photo et évidemment, ça peut susciter l'envie d'acheter cette crème ou ce produit. Or sur les réseaux sociaux, vous donnez votre avis. Donc quelque part, si moi je vais dire ah oui, elle est géniale cette crème, bah potentiellement il y a tant et tant de femmes qui vont pouvoir acheter cette crème, alors que si finalement je l'ai pas utilisée pour de vrai, pour moi c'est pas du tout. Enfin, j'aurais ce manque de loyauté envers les gens qui me suivent au quotidien. Et je crois que c'est justement la chose la plus importante pour moi, c'est qu'on crée une espèce de relation. C'est pas des gens que je connais, mais c'est quand même des gens qui me suivent au quotidien, avec lesquels j'ai une certaine crédibilité et justement des gens en abusent aussi. Donc moi, c'est réellement des choses où c'est hors de question.
Mais par exemple, vous leur répondez, vous posez des questions
quotidiennement. Moi, j'ai des centaines de messages quotidiennement. Donc des fois, je réponds vraiment, enfin, j'essaye au maximum de répondre à tout le monde. Il y a des messages qui passent à travers parce que je le lis rapidement entre deux rendez-vous et que j'oublie d'y répondre parce qu'il y en a d'autres qui viennent par après. Mais oui, c'est réellement des échanges que j'ai avec des personnes que je ne connais pas, quoi.
Ah oui, c'est dingue.
C'est ce qui est incroyable.
Et qui vous pose des questions personnelles ?
Personnelles, oui et non. On va dire que il peut y avoir des questions personnelles, mais encore une fois, je choisis d'y répondre ou pas. Après, c'est plus des questions sur, voilà, sur mes tenues, d'où vient cet article, d'où... Enfin, c'est vraiment... C'est un monde particulier.
Et ce métier de coach en image ou de conseillère en look dont vous parliez tout à l'heure, là pour le coup, c'est quoi ? C'est les gens prennent rendez-vous avec vous, vous allez.
Alors ça, c'était au départ, en fait, quand moi j'ai un, on va dire un parcours assez atypique et j'ai vécu longtemps à l'étranger. Quand à l'époque je suis revenue vivre en France il y a 10 années, la question se posait de comment j'allais reprendre entre guillemets ma vie professionnelle. Donc je me suis mise à mon compte et je savais que c'était une chose que je maîtrisais, les looks, l'image. Donc je me suis créé un site internet sur lequel je proposais justement mes services de relooking, de tri d'armoire, de personal shopper. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai redémarré, que j'ai aussi redémarré sur les réseaux sociaux. J'ai redémarré le mannequinat à cette époque-là aussi. Et c'est à travers ça que je me suis constituée cette image. Au début, je travaillais avec des centres et je proposais des sortes d'animations comme ça autour du relooking, autour de l'image justement. Et puis au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur, encore plus. Et aujourd'hui, c'est quelque chose où malheureusement, j'ai plus le temps de le proposer aux particuliers. Donc je le propose toujours sous forme d'animation, de masterclass avec des groupes dans la région. Mais à la base, effectivement, j'allais chez les gens où j'accompagnais des femmes pour faire leur shopping et je leur apportais mon conseil.
Alors, revenons un tout petit peu au début. Alors, comment on devient mannequin à 16 ans ?
En fait, et c'est encore une fois quelque chose que c'est ce que je dis souvent, c'est que je crois que on rêve toutes de choses et je rêvais toujours, moi, c'était toujours quelque chose qui m'attirait, mais je me suis pas levée un matin en me disant il faut que je devienne mannequin. C'est toujours quelque chose qui me fascinait et en fait, moi, j'ai participé, je crois, 15 ans. Mes parents avaient bien compris que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup.
Vous aimiez vous habiller, vous aimiez.
C'était pas forcément m'habiller à l'époque, c'était plus ce côté podium, les photos. Et du coup, mes parents m'ont inscrite à des élections de Miss dans la région. Et puis j'en ai fait une que j'ai gagnée, puis j'en ai fait une deuxième, une troisième.
Donc, Miss quoi alors ?
La première, c'était Miss Brumath, donc c'était de là où je viens, finalement, la ville où je viens. Et puis ensuite, voilà, il y avait. Ça se faisait beaucoup plus dans le temps. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu perdu ces dernières années. Aujourd'hui, c'est par exemple un monde auquel, quand ma fille, par exemple, longtemps me disait ah, j'aimerais bien aussi être Miss, je suis pas persuadée que j'ai envie. Moi, ce côté un peu cliché Miss, en ayant fait le tour. Et puis
c'était pas le cas avant ?
C'était moins. On associait. Aujourd'hui, je trouve que le cliché de la Miss, c'est qu'elle doit juste être jolie. Même si ils essayent de changer les choses et que le parcours professionnel ou du moins scolaire d'une Miss est quand même bien mis en avant, ça reste encore très, aux yeux des gens, c'est toujours encore énormément si elle est juste jolie, alors que bien au contraire, on peut être jolie et pouvoir faire plein de choses encore, hormis juste être jolie.
C'est marrant, j'aurais dit qu'on s'intéressait plus aujourd'hui à avoir une tête bien pleine dans un joli corps plutôt qu'il y a quelques années en arrière où au final tout ce qui comptait c'est qu'elle soit belle justement, non ? Pour vous c'est l'inverse ?
Non, alors non, c'est pas que c'est l'inverse, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques années, quand je le faisais c'était il y a plus de 20 ans, 25 ans même, mon Dieu, ça ne me rajeunit pas. Mais j'avais l'impression qu'effectivement, il y avait toujours ce côté beauté. C'est forcément, c'était la première chose qui était mise en avant, mais il y avait moins ce cliché qu'elle devait juste être jolie, je ne sais pas. Peut-être que c'est juste ma vision. Ouais.
Et donc, à 15 ans, vous devenez Miss Brumath.
Miss Brumath, j'en ai fait plein d'autres. Hein. Même aujourd'hui, mon Dieu, je me dis, quand j'entends les noms des Miss auxquelles j'ai participé, je me dis, c'est pas possible.
Donc, Miss Alsace aussi.
Alors non, j'ai voulu faire Miss Alsace et en fait, j'ai pas pu parce que j'ai participé à un comité concurrent. Et du coup, j'ai malheureusement pas pu le faire. C'est, je crois, peut-être le seul regret que je peux avoir par rapport à cette période de Miss où je me dis, ah tiens, j'aurais bien aimé aller jusqu'au bout des choses, que finalement, la finalité, c'est de représenter sa région. Mais voilà, c'est le seul petit regret que je peux avoir aujourd'hui.
Alors, être Miss, ça représente quoi ? Parce qu'on doit quand même défiler, on apprend déjà à défiler.
On apprend à défiler, oui. On apprend à défiler, on apprend aussi à parler, parce que c'est justement là où pour moi c'était important. C'était forcément, il faut être jolie, il faut bien présenter. Mais il y a quand même toujours cette espèce de discours qu'il fallait tenir devant une grande assemblée. Et moi, à l'époque, à 15 ans, quand j'ai participé à ma première élection, je crois que c'était ça qui me faisait le plus peur. C'était pas de défiler comme ça devant autant de monde, mais c'était plus de
prendre
la parole. Ce côté-là, je crois qu'à 15 ans aujourd'hui, je me dis, quand je vois ma fille de 15 ans, je me dis que c'était quand même un sacré challenge à cet âge-là.
Et du coup, il y a une musique qui vous revient en mémoire ou sur laquelle
question.
Vous aviez défilé ou qui vous rappelle quand vous l'entendez, cette période-là?
Alors je l'entends dans ma tête.
Donc, premier podium à 15 ans.
J'enchaîne.
Ça continue.
Voilà, j'enchaîne. Finalement, une fois qu'on a le pied dedans, très vite, moi, c'était un monde qui me plaisait. Ensuite, j'ai été repérée aussi ici par une agence de mannequins dans laquelle j'ai très rapidement, je crois à 16 ans, signé mon premier contrat. Et puis ensuite, j'ai enchaîné des défilés. J'étais toujours à la limite au niveau de la taille parce qu'à l'époque, il fallait non seulement être toute fine. Ça aussi, c'est des choses qui ont évolué, mais là, pour le coup, positivement. Parce qu'à l'époque, les clichés, c'était vraiment, il fallait être grande et très, très fine. Et moi, le souci, c'est que j'avais 1m70, donc j'étais tout pile au niveau de la taille. Mes concurrentes, elles avaient toujours plus 1m75, qui correspondait mieux au profil recherché. Et du coup, moi, ça a tout de suite plus été... j'étais pas trop la mannequin podium. Alors, j'ai fait des salons du mariage, des défilés ici pour des marques en local. Par contre, j'ai plus été amenée à faire des shootings photos parce que là, la taille n'était pas prise en compte, mais c'était plus ce qu'on arrivait à dégager en shooting qui était demandé. Donc voilà, rapidement, j'ai comme ça servi de modèle photo pour divers enseignes et je suis partie à l'âge de 20 ans vivre à l'étranger. Donc j'ai tout de suite, en fait, j'ai très rapidement pu lancer ma carrière, mais aussi vite je suis partie vivre à l'étranger.
Parce qu'à l'étranger, la carrière s'est arrêtée.
C'est un choix que j'ai fait. Pour le coup, ça a mis un petit peu cette carrière de mannequin entre parenthèses.
Quand on est mannequin, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention à...
Oui, après, je pense que je ne suis pas certaine que ce soit que les mannequins. Je crois que, en fait, de nos jours, quand on est femme, il faut tout le temps faire un petit peu attention et essayer d'avoir un rythme, enfin, pas un rythme, mais d'être rigoureuse.
Oui, mais ça, c'est un diktat que vous vous imposez parce que l'image est importante.
Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est... Mais c'est quelque chose que, quelque part, je me suis imposée depuis toujours.
Depuis toujours, oui. Ouais, c'est ça.
Mais avec lequel je suis en complet accord. Je sais que pour moi, l'image... J'ai toujours, quelque part, travaillé avec mon image. Donc, je savais que l'importance était de prendre soin de celle-ci.
Mais lorsque vous avez arrêté pour partir à l'étranger, vous étiez toujours soucieuse de votre image ?
Oui.
Vous continuiez
Oui. Je pense que j'avais cette fibre, que ce soit avec l'image ou avec la mode, j'ai toujours, voilà, pour moi, l'image a toujours compté, comment je me présentais, comment je m'habillais au quotidien, mais c'était pas forcément pour les autres, c'était plus pour moi, en fait.
C'était pas un effort, en fait.
Non.
C'était vraiment intrinsèque.
Voilà.
Et vos parents, ils voyaient ça comment ? C'est parce que vous dites, aujourd'hui, ma fille, j'aimerais mieux qu'elle fasse autre chose, et vos parents, ils trouvaient ça...
Non, moi, mes parents étaient, pour mes parents, pour le coup, c'était vraiment de la fierté pour eux la petite carrière que j'ai eue justement à mon adolescence. Pour mes parents, c'était forcément une fierté. Et c'est peut-être quelque chose que ma maman aurait aimé faire et qu'elle n'a pas pu faire. Donc, elle a un peu vécu à travers moi.
Donc, elle était contente, elle vous
faisait
confiance, elle
vous
accompagnait.
Oui,
vous étiez
complètement. Autant ma maman que mon papa. Les deux étaient présents à chaque fois. Parce qu'il faut quand même savoir que j'étais pas majeure hein, quand j'ai... J'étais mineure quand j'ai commencé, donc je crois même que c'était une obligation d'être accompagnée des parents sur des événements.
Alors c'est vrai qu'on voit aussi souvent dans les reportages les parents qui poussent les enfants, qui les emmènent dans des agences pour faire des castings, etc. Oui. Vous, c'était vraiment votre choix?
Oui. Bah de toute façon, moi, c'est quelque chose que j'ai commencé, je crois que je m'y suis intéressée vers 14 ans. Alors, c'est quelque chose que j'aimais toujours, mais c'est pas pour autant que mes parents m'ont inscrite toute jeune dans des agences ou dans des shootings photos, pas du tout.
C'est de votre propre chef.
Oui, complètement.
Donc, vous partez à l'étranger, vous revenez une dizaine d'années après, c'est ça ?
15 ans après.
15 ans après, avec deux enfants.
C'est ça, un bagage un peu plus lourd.
Et il faut retrouver du travail.
Oui, c'est ça. Donc, c'était retrouver du travail. Et puis, et quelque part, l'idée... je crois que j'avais jamais abandonné l'idée où j'avais comme une impression de sensation de... J'avais pas bouclé la boucle du mannequinat. En fait, je l'avais, j'avais goûté à ça. Je sais que j'avais aimé. J'avais mis ma vie en parenthèse pour vivre à l'étranger. J'ai ensuite élevé mes deux enfants. Et puis...
Vous êtes mariée ?
Je me suis mariée.
J'ai eu deux enfants. Et donc, pendant tout ce temps-là, pas de mannequinat, pas de réseaux sociaux.
Non, bah à l'époque, bah alors les réseaux sociaux, pour le coup, ça n'existait pas encore à l'époque. Hein. Il y avait Facebook qui démarrait, je ne sais même plus, mais au début, c'était on ne partageait pas ses looks ou ces choses-là sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, je suis revenue. Et puis la question qui se posait, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et surtout, qu'est-ce que j'aime faire hein. Parce que je crois qu'au siècle, la maturité, c'était de me dire il est hors de question que je me mette dans un espèce de moule. Alors oui, il faut gagner de l'argent, ça c'est certain, il fallait que j'assure mon quotidien. Mais j'avais envie vraiment de me dire... voilà, c'est peut-être le dernier moment. Et puis surtout, la mentalité a évolué pendant toutes ces années. C'est qu'on partait justement de clichés où les mannequins devaient être grandes, toutes fines. Et puis, quelques années plus tard, on arrivait déjà vers du body positive. Alors, c'était pas encore assumer ses formes, mais c'était plus s'identifier à des personnes qu'on pourrait croiser au quotidien. Et c'est là où je me suis dit que j'allais... refaire un book, réessayer dans les anciennes agences et je suis tombée pile poil au moment justement où les choses ont évolué, où on avait besoin de voir en photo dans les magazines des femmes auxquelles on peut réellement s'identifier et non pas la jeune fille de 18 ans qui va essayer de promouvoir une crème anti-ride alors qu'à 18 ans bah, c'est certain qu'elle n'aura pas de rides. En fait, je suis tombée au bon moment et du coup j'ai refait des photos que j'ai renvoyées à mes agences. En parallèle, j'ai lancé ma structure donc sur le conseil en images. Et c'est pour ça que je le dis, que tout a pris rapidement. Et puis, c'est là aussi où j'ai commencé les réseaux sociaux. Où je me suis dit, tiens, et pourquoi pas? Je pourrais partager mon quotidien de mannequin. Et je savais aussi que c'était une nouvelle manière de se mettre en avant auprès des agences. Les agences, une des premières choses qu'elles demandaient, c'est est-ce que tu as Instagram? Et en fait, à l'époque, je n'avais pas Instagram. Je me suis dit, tiens, c'est drôle. À l'époque, on nous demandait un book, différentes photos. Et là, elles me demandaient, est-ce que tu as Instagram? Et donc, je me suis un petit peu penchée sur le sujet et pour au final me créer un compte qui m'a justement aussi propulsée là où je suis aujourd'hui.
Alors, on crée un compte avec...
Zéro abonné.
Quelques followers.
Non, la famille, voilà. La famille. Et puis.
Et comment on fait pour que ça grossisse comme ça ?
Je ne sais pas. J'ai pas de recette magique. En fait, j'ai partagé. Je crois qu'aujourd'hui, la chose dont je suis fière, c'est que les gens qui me connaissent en dehors des réseaux sociaux, me retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, je ne me suis pas inventé une image ou autre. C'est celle que je suis au quotidien. J'ai partagé ce que j'aimais partager ou ce que j'aime faire au quotidien et c'est ce qui a plu. Donc, je pense que c'est à un moment donné, ça devient viral parce que d'autres femmes arrivent à s'identifier. Je pense que j'ai tout type de profils qui me suivent. Ça peut être des femmes peut-être que je fais rêver à travers mon métier ou l'image, des femmes qui arrivent complètement à s'identifier parce qu'elles sont un peu dans la même situation, des filles plus jeunes que je peux peut-être motiver aussi à se dire bah tiens, c'est un métier ou c'est un petit peu comme ça que j'aurais envie d'évoluer. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Après, au contact de... Voilà, j'ai rencontré des personnes, j'ai participé à des événements. C'est comme ça que, voilà, que les réseaux, que les abonnés ont augmenté, quoi. Ça a été petit à petit.
Mais à vous entendre, j'entends quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté.
Ah bah ça l'est, parce que moi...
Il fallait revenir sur le devant de la scène, il fallait... Oser aller frapper à la porte des photographes, vous aviez plus 20 ans.
Non, c'est ça, voilà.
Vous avez peut-être oublié, je ne sais pas.
Ah, mais tout le monde m'avait complètement oublié, ça c'est certain. Après, j'ai frappé à la porte des agences que je connaissais, parce que c'était forcément la chose la plus simple à faire, mais je suis aussi.
Mais 15 ans après?
Voilà.
Peut-être plus les mêmes.
Non, c'était plus forcément les mêmes. Et puis surtout, les choses avaient évolué. Donc, c'était, je crois que c'est ce côté où j'ai pas trop réfléchi. C'est que je me suis dit, je le tente. Et puis, au pire, ça ne marche pas. Et j'aurai pas de regrets. Et au mieux, ça fonctionne comme aujourd'hui. Et je suis fière de ce parcours. Surtout de me dire qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer, il n'y a pas de, période. Et même si on a l'impression, je crois que si on veut quelque chose au fond de soi, il vaut mieux le tenter plutôt que de rester sur des espèces de regrets de ne pas l'avoir essayé.
Enfin, une volonté quand même de toujours rester magnifique, mince, jolie, élégante, etc.
Mais je pense que ça, c'est ça où on l'a ou on ne l'a pas. Ça, c'est quelque chose
pour... Vous ne forcez jamais?
Non, je me force pas parce que je pense que je suis comme ça. J'ai ce côté où j'aime me plaire à moi-même, donc j'aime faire des efforts pour moi avant de le faire pour les autres. Donc c'est quelque part quelque chose qui fait partie de mon quotidien.
Alors, votre famille, parce que vous disiez tout à l'heure, mes enfants, j'aimerais bien qu'ils ne soient pas trop sur les réseaux ou en tous les cas qu'ils ne se servent pas.
Non, ce n'est pas forcément qu'ils ne soient pas trop sur les réseaux parce que la génération qui arrive sera forcément encore plus connectée que la nôtre. Mais c'est avoir une vision des choses et de pas tout idéaliser ou idolâtrer parce que forcément, tout ce qui tourne sur les réseaux n'est pas forcément vrai. Et en fait, ne pas oublier qu'on vit les choses réellement dans la vraie vie, que c'est le travail tout de même aujourd'hui qui fait en sorte qu'on peut réussir dans la vie et que, alors évidemment, il y a toujours des profils qui prouvent le contraire. Il y a plein d'influenceurs qui, c'est pas le résultat d'un travail, mais c'est le résultat d'un buzz à la télé ou autre qui les ont propulsés vers la réussite.
Oui, mais s'ils ne travaillent pas ça, même si un jour ils ont eu peut-être cette chance, j'en sais rien moi, de télé-réalité ou autre, il y a ceux qui le travaillent.
C'est ça.
Et puis il y a ceux qui se disent, ben, je vis un peu sur mes lauriers, puis ça s'éteint.
Voilà.
Au final, les gens n'aiment que ceux qui sont devant de la scène. Hein.
Oui, 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 non,
on
clairement.
Vite. Hein.
Oui. Non, mais c'est vraiment qui, en fait, débuter ou leur inculquer les vraies valeurs de la vie et non pas celles des réseaux sociaux.
Oui, mais ça doit être difficile quand on vit sur les réseaux sociaux.
Ben, je ne vis pas sur. Enfin, Je vis sur les réseaux sociaux, mais sans non plus... Je pense que justement, j'avais quand même cette maturité qui faisait qu'à 35 ans, arriver sur les réseaux sociaux, on n'y arrive pas comme à 18 ans, où on a l'impression, je crois qu'il y a une certaine... Tout le vécu et tout le passif que j'avais qui justement aujourd'hui me dit aussi, attention, je partage ce que j'ai envie de partager.
Mmh. Mais par exemple, vous avez partagé votre mariage.
J'ai partagé mon mariage.
Donc ça, votre mari était OK avec ça, enfin j'imagine.
Oui, il vaut mieux. Mais après, ça fait partie du... Une fois qu'on est sur les réseaux sociaux, on peut évidemment décider. J'aurais pu très bien dire, je ne partage pas, mais quelque part, ce métier-là sur les réseaux sociaux, c'est aussi les gens qui me suivent, qui le font vivre, qui font que c'est possible. Donc c'est...
Vous leur devez ?
Je pense que je dois rien, mais c'était le minimum que je pouvais faire, c'était de partager ce moment fort de ma vie. Mais encore une fois, j'ai partagé des épisodes de mon mariage, mais j'ai pas filmé en live mon mariage, j'ai partagé des photos, j'ai partagé quelques vidéos du mariage, mais les gens...
C'est toujours mis en scène.
C'est-à-dire
quand vous faites une vidéo, vous savez qu'elle est faite pour aller sur les réseaux.
Non, c'est pas forcément. Non, non. Alors, ça peut être des vidéos. Là, en l'occurrence, pour le mariage, c'est réellement des vidéos, des scènes du mariage, mais j'ai pioché les scènes, que j'avais envie de montrer.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
C'est pas un montage, parce que je tiens vraiment à ce fait de... d'expliquer que c'est je partage ma vraie vie, je partage pas justement c'est ce souci là entre celle qui s'invente une vie sur les réseaux sociaux qui est pas celle qui est en réalité et celle qui partage finalement leur quotidien mais qui choisissent de montrer ce qu'elles ont envie de montrer.
Parce que là, donc tout à l'heure on disait influenceur ou
créateur de
contenu,
oui.
Une marque vous rémunère pour que vous parliez d'elle.
C'est ça.
Avec toute l'éthique qu'on a évoquée tout à l'heure, que vous mettez autour. Lorsque vous montrez votre mariage, personne ne vous rémunère pour que vous présentiez votre mari, vos enfants. Vous avez eu un bébé pour que vous montriez votre rôle de maman, etc. Là, c'est vraiment vous qui le souhaitez.
Alors, sauf que forcément, tous les événements de ma vie suscitent potentiellement des demandes de mise en avant ou de collaboration. C'est-à-dire que sur mon mariage, je me suis mariée donc civilement et ensuite on a fait une cérémonie laïque. Sur le mariage civil qui a eu lieu ici dans la région, j'ai eu des demandes de partenariat. Donc à un moment donné, accepter des partenariats, des collaborations par rapport au mariage, c'est forcément aussi le mettre en avant sur mes réseaux sociaux.
Donc, par exemple, la robe de mariée.
Voilà, moi, on m'a offert ma robe de mariée civile. On m'a offert toute la papeterie, toute la partie wedding planner sur mon mariage civil.
Mais ça, vous l'aviez pas cherché.
Non.
On est venu vers vous en disant. Tiens,
en fait, moi, j'ai juste.
Que tu te mariais.
Voilà, moi, j'ai partagé le fait que mon mari m'a fait une demande en mariage et c'est ce qui suscite. C'est le partage de ma vie quotidienne ou des événements qui suscitent en fait l'envie à certaines marques de me faire des propositions par rapport à ça.
Mais quand vous mettez, par exemple, le fait que votre mari vous ait demandé...
J'aurais pu ne pas le mettre.
Mais qu'est-ce qui vous pousse à le mettre, sachant qu'à la base... Alors, est-ce que c'est du marketing? C'est-à-dire, je mets en scène cette demande, ou en tous les cas, je parle de cette demande, dans l'espoir que des marques vont m'en contacter? Ou bien vous le faites parce que vous vous dites, ma communauté, j'ai besoin de la nourrir et de lui raconter un peu ce que je fais?
Non, j'ai pas du tout... Je crois que justement, toute cette partie où on pourrait s'imaginer que tout est mis en scène et que marketing, pas du tout. Parce que moi, à la base, c'est pas du tout... J'ai même réfléchi à me dire, est-ce que je mets mon mariage en avant ou pas du tout. Ça s'est fait naturellement parce que voilà, je partage les choses spontanément et celles que j'ai envie de partager. Et en l'occurrence, il s'avère que voilà, c'était une demande marquante ou un événement marquant dans ma vie que j'ai eu envie de partager, mais sans l'idée de me dire, j'allais pas organiser mon mariage en me disant, ce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des influenceuses qui démarchent elles-mêmes des marques pour avoir ça d'offert et moi c'est hors de question. En fait souvent c'est ce que je dis, c'est que l'influence c'est une rémunération en plus, mais c'est pas mon métier principal. Donc j'ai toujours cette possibilité là pour moi de dire en fait non, si j'ai pas du tout envie de faire de marketing là-dessus, j'en ferai pas du tout.
Mais pour avoir 13 000 followers, même si bien sûr il y a des influenceurs qui en ont
des millions,
il faut quand même s'en occuper. Je veux dire, c'est pas en postant un truc de temps en temps. Que
justement, c'est ça. En fait, il faut accepter. C'est là où il faut justement accepter de donner une partie de sa vie et qu'on ne peut pas.
Il faut nourrir son fan club entre guillemets.
Oui.
Faut quand même l'alimenter si vous lui postez que de la pub.
Alors oui. Ah non, mais justement, moi en grande partie, déjà c'est une chose importante, c'est que je partage plus mon quotidien avant de la pub, parce que je pense que les gens se lassent. Au départ, c'était quelque chose qui fonctionnait bien, on connaissait pas trop le marketing d'influence, donc au départ les gens connaissaient. Aujourd'hui, il y a aussi et même moi, je me suis désabonnée de plein de comptes parce que à mon sens, c'était que du placement de produits et qu'il y avait plus de partage en fait naturel, spontané, des choses que j'aimais au départ pour suivre une personne, parce que c'est réellement devenu un métier et que le métier a pris le dessus sur la vraie vie quelque part.
Mais quand vous partagez donc quelque chose qui n'est pas entre guillemets sponsorisé ou pour lequel vous n'êtes pas rémunéré, ces 13 000 personnes ou plus que vous ne connaissez pas, je me demande comment on a envie de partager des choses intimes comme un mariage, comme la naissance d'un enfant, comme etc.
Mais parce qu'en fait, quelque
on connaît pas.
Très bonne question. Mais je pense que justement, c'est pour ça aussi que c'est pas donné à tout le monde, parce que je pense que chaque personne n'a pas forcément cette vision des choses. Moi, c'est plus et justement, c'est là où c'est drôle, parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis le départ où je me suis mise sur les réseaux et qui ont du coup suivi toute l'évolution, qui ont suivi ma dernière grossesse, qui ont suivi la naissance de la petite, et c'est des gens qui, à un moment donné, c'est presque un petit peu les gens sont curieux, les gens ont envie de savoir et que c'est quelque part il faut que j'alimente pour que je continue à susciter l'envie aux gens de me suivre.
C'est un cercle vicieux, en fait.
C'est ça,
hein.
Oui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas vous mettre en pause.
Alors, je le fais parce que on ne voit pas forcément cette partie-là, mais c'est quelque chose d'épuisant ou quelque chose des fois de j'en perds la spontanéité dans la vraie vie.
On se dit, oh là là, aujourd'hui, je n'ai rien posté, il faut absolument que je poste un truc.
Voilà, ou alors on arrive au restaurant, il ne faut surtout pas toucher la table, il faut d'abord que je fasse une belle photo. Donc, il y a des choses où aujourd'hui, je me suis détachée de tout ça. Au départ, on a un petit peu cette pression de dire la concurrence, elle est évidemment rude sur ce type de métier. Et du coup,
plus on poste, plus on a de followers.
Non, pas forcément. Non. C'est plus, en fait, plus on va intéresser les personnes, plus on aura de followers.
Prenons l'exemple du resto. Vous rentrez dans un resto, vous n'avez pas forcément réservé sur votre nom ou bien vous n'êtes pas connu. Vous rentrez, vous allez faire des photos du resto, vous allez poster.
Oui.
Est-ce que derrière,
les gens iront manger
en tire, voilà.
Oui.
Est-ce qu'il en tire un bénéfice?
Oui.
Et est-ce qu'il le sait? Est-ce que vous lui dites, je m'appelle...
Non. Alors non, pas du tout. J'ai pas du tout la prétention et c'est des choses que j'aime pas du tout. Je suis pas du tout dans cette démarche à justement faire des demandes en disant, je viens manger chez vous. C'est hors de question. Mon Dieu, ça fait pas du tout partie de mes valeurs. Après, c'est plus des choses où. Donc je le fais naturellement parce que si le lieu me plaît, que j'y suis, et de toute façon, je sais que les gens vont me demander. Si je poste une photo, les gens par derrière vont me demander « Tiens, tu étais où ? Est-ce que ça t'a plu ?» Donc, il y a plein de choses que je fais simplement parce que ça fait partie de mon quotidien maintenant, mais sans pour autant que ce soit du placement de produits ou vraiment de toute façon. Aujourd'hui, il y a des lois qui exigent certaines mentions dans les stories Instagram pour préciser si c'est sponsorisé, si c'est des partenariats qui sont rémunérés, parce que justement, on sait qu'il y a eu de l'abus là-dedans. Et donc, les gens, très rapidement, chez moi, savent, attention, ça c'est du sponsor, ça l'est pas, ça c'est juste un partage. Voilà, je partage aussi plein de choses qui sont pas sponsorisés, qui sont simplement des choses qui font partie de mon quotidien, de ma routine beauté, de la manière dont je vais m'habiller, des endroits où j'aime
là,
bien aller.
C'est le coach qui reprend le dessus, en fait.
Voilà.
C'est
voilà.
Cette idée de dire, regardez, le vert est à la mode, mettez du vert, attention.
Voilà.
Si vous êtes
Parce
brune,
que surtout qu'aujourd'hui, on peut me poser des questions sur tout et n'importe quoi. C'est pas que sur mon look, c'est sur mon intérieur, sur toutes les choses que je mets en avant suscitent des questions des gens qui me suivent.
Donc, je suis dans ce restaurant, je le trouve super sympa. Je fais une petite photo comme ça, vite fait, une petite story. Hein,
c'est ça.
Les gens trouvent ça génial, ils likent, etc. Et le restaurateur se dit, waouh, j'ai Mademoiselle Sof dans mon restaurant. Je vais lui proposer peut-être de revenir dîner avec sa famille et puis on va mettre en scène.
Ça, c'est possible. Ça, c'est des choses qui, évidemment, arrivent quand ils se rendent compte qui je suis, et encore sans prétention. Mais voilà, c'est une démarche. C'est comme un peu la demande en mariage. Au moment où j'ai été demandée en mariage, y a potentiellement des gens qui se sont dit, tiens...
Je vais faire une demande en mariage.
Non. Pas la demande en mariage, mais potentiellement, je pourrais lui proposer de... la mise en avant de tel et tel produit liés dans le cadre du mariage.
Donc, on est quand même un tout petit peu obligé de mettre en avant sa vie, de mettre en vitrine sa vie.
On n'est jamais obligé.
On n'est pas obligé, mais enfin, il faut nourrir les followers.
Voilà.
Et quelque part, il faut quand même aller chercher, entre guillemets, du client, puisque même si c'est une rémunération complémentaire, je pense que ça fait partie de toute l'image de marque. C'est-à-dire, on vous demande peut-être d'être mannequin aussi aujourd'hui parce que vous êtes une influenceuse... reconnue, suivie, adorée.
Ouais, alors c'est pas les deux métiers sont complètement scindés. C'est plus forcément au contraire, les clients des agences de mannequins, eux, ils ont justement cette image à laquelle il faut faire attention et donc un profil, quelqu'un qui serait peut-être trop fêtarde et qui est censé mettre en avant, un produit
sain.
En fait, les deux univers ne pourraient pas coller. Donc non, c'est deux choses qui sont complètement dissociées.
Oui, puis à la fois, votre notoriété pourrait être plus importante que celle de la marque et là,
oui,
ça serait mauvais.
C'est ça.
Ouais.
Ouais.
Oui, effectivement, ouais. Donc il faut faire...
Voilà, maintenant, on se rend aussi compte, par contre, que dans le temps, les agences de mannequins travaillaient uniquement avec des profils mannequins, où les marques, aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, les marques travaillent avec des influenceuses, parce que finalement, c'est double... elles ont d'une personne qui, physiquement, représente l'image de la marque, mais qui en plus leur fait vendre le produit.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui a énormément changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une stratégie de communication, on va forcément intégrer des influenceurs. Mais à quel moment on se dit, bah, ces influenceurs sont rémunérés? Donc, en fait, c'est des ambassadeurs de la marque. On appelait ça avant différemment,
ou
attaché de presse, ou j'en sais rien. Comment on se vend pour ça? C'est-à-dire, c'est le nombre de followers qui va faire la différence?
Alors, de prime abord, et encore il y a quelques mois, c'était forcément ce nombre d'abonnés qui faisait vendre. Or, aujourd'hui, avec justement un petit peu toute cette décrédibilisation du métier d'influence, on se rend aussi compte que c'est pas forcément les gens qui ont le plus d'abonnés qui font vendre le plus. Parce que ceux qui ont le plus d'abonnés, c'est pas forcément ceux qui ont le plus de crédibilité, étant donné qu'on sait qu'ils font du placement de produits, qu'il y a moins de choses un petit peu spontanées. Donc, on va dire que ça s'est un petit peu équilibré. Forcément, il y a des gens qui restent très influents et qui sont plutôt sollicités par les marques, mais c'est pas forcément le nombre d'abonnés qui va...
C'est la différence.
Non, plus. Je dirais plus, c'est vraiment aujourd'hui, c'est plus les statistiques en fait qu'on va prendre en compte. C'est de savoir, moi aujourd'hui, quand une marque me démarche, la première chose qu'elle me demande, c'est mes statistiques. Combien de nombre de personnes te suivent au quotidien? Combien de clics il y a eu sur les liens quand par exemple je partage une tenue? Donc c'est des choses comme ça qui intéressent.
Donc c'est ça qu'on demande pour définir si oui ou non.
Un budget. Budget et pour savoir si je peux correspondre à la cible et au profil recherché.
Et est-ce qu'il y a un nombre de marques que vous ne dépasserez pas, ou est-ce que vous vous dites, ben, je ne sais pas moi, sur une semaine, je ne veux pas promouvoir plus de X marques parce qu'à force, ben, je ne suis pas non plus un panneau publicitaire. Comment vous gérez ça?
Moi, de toute façon, je n'ai pas encore un niveau d'une influenceuse qui ne fait que ça. Donc moi, j'ai encore la possibilité justement de me dire, je pense que je ferai rarement deux placements de produits en une journée parce que ça ne me correspond pas et que je suis mal à l'aise avec ça. Donc je limite, moi. Mais encore une fois, c'est pas réellement du placement de produits un petit peu pur, mais c'est plus, je travaille avec, notamment dans le prêt-à-porter, avec des marques qui vont plus justement me demander de faire des looks, de mettre des looks en avant. Donc c'est pas, je vais pas me lever en disant aujourd'hui, je vais vous parler d'un super produit. Alors ça m'arrive aussi, mais c'est très très rare. J'ai plus justement ce côté où je partage, et par exemple, rares sont les fois où je partage des codes promo ou toutes ces espèces de choses où on sait qu'on a affaire réellement à du marketing d'influence. Moi, c'est plus du partage de produits ou de choses que j'ai eu la possibilité de tester plutôt que de la vente pure et dure.
Mais quand vous avez un contrat avec une marque, elle vous demande de parler de sa marque X fois par jour. Enfin, comment ça marche?
Comment ça
se négocie?
En fait, les contrats sont définis d'avance. Et justement, c'est ce que je vous disais, il y a des marques qui demandent uniquement de la photo, il y a des marques qui demandent de la vidéo, il y a des marques qui demandent de la photo et des stories. C'est des choses qui sont définies d'avance avec la marque. En fait, c'est la marque qui quelque part fait sa demande, avec un petit peu un tableau de bord sur lequel on doit se tenir, qui peut aussi par moment nous donner les jours de publication en nous disant...
Oui, du style le vendredi, j'aimerais que tu...
Voilà, à telle et telle heure, parce que...
Une soirée.
Voilà, parce qu'il y a telle et telle audience. Voilà, ça c'est un petit peu comme ça que se pratiquent les demandes de collab. Et puis ensuite, il y a toute la partie budget, devis. Et même encore là, c'est quelque chose de très, très aléatoire parce qu'il n'y a pas de grille tarifaire. C'est un nouveau métier. C'est compliqué au départ de se dire, bah tiens, je me réfère à quel tarif, on n'a pas de taux horaire ou de choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est plus des espèces de budgets qui sont définis par story, par nombre de visibilité pour la marque.
On demande d'avoir X posts, X stories,
voilà.
À tel moment de la journée,
voilà.
À tel moment de la semaine. Vous avez un calendrier d'action, en fait.
C'est ça, exactement.
C'est ça.
Voilà.
Et donc, en fait, ce calendrier d'action, vous ne pouvez pas le multiplier au bout d'un moment.
Non, il faut justement. Et puis après, c'est ce que je dis aussi, c'est que ça représente des heures de boulot. Que ce n'est pas quelque chose où on se dit, on se prend 5 minutes. Des fois, ça demande de la réflexion parce qu'ils ont une mise en avant particulière qui est demandée. Il y a des choses que je peux faire spontanément. Tout ce qui va être spontané, c'est de toute façon plus partager ma journée, mon quotidien. Tout le reste est quand même un petit peu réfléchi et travaillé.
Mmh. Donc, c'est un vrai métier.
C'est un vrai métier.
Alors, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une école pour former, ça vous faisait grincer des dents?
Oui, complètement, oui. Bah parce que je pense que je ne sais pas si... Alors, j'ai peur de me dire que s'il y a une méthode qui est un petit peu prédéfinie, bah on perd le côté spontané et original de chaque personnalité. Or, si on suit quelqu'un, c'est pour la personne qu'elle est, c'est pour sa personnalité, c'est pas pour quelque chose qu'on lui a appris à l'école.
Mais alors, vous parlez de personnalité. on a l'impression que les filles sont toutes les mêmes. Elles se ressemblent toutes.
C'est comme pour tout, ça c'est des phénomènes de mode malheureusement et qu'aujourd'hui, qu'il y a quelques années, ça mettait plus de temps parce que bah, justement, il n'y avait pas tous ces réseaux et cette manière de partager. Alors qu'aujourd'hui, tout est partagé, tout est pratiquement à la minute près. On peut voir ce que telle et telle fille a porté et on se dit, bah, tiens, je veux porter la même chose. Et c'est sûr qu'on retrouve beaucoup de filles qui s'identifient à un même profil et que l'influence justement n'aide pas là-dedans à avoir sa propre personnalité, mais je pense que quand on est à n'importe quel âge, on s'identifie ou on se laisse un petit peu influencer par des personnes qu'on aime bien,
ce que vous voulez dire, c'est que l'influence, elle augmente avec les réseaux sociaux,
oui.
Mais elle n'est pas née avec
les réseaux sociaux. Elle a toujours existé, on s'est toujours dit à un moment donné, tiens, je vais me couper les cheveux un peu comme... telle et telle actrice, ou donc c'est quelque chose qui existait quand même, qui est aujourd'hui surdimensionné par le phénomène des réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qui existait toujours.
Oui, et on dit qu'il y a plus de chirurgie esthétique depuis les réseaux sociaux chez des filles très jeunes.
Ça, c'est
le remarqué ça.
Ouais, ça c'est justement c'est le souci des réseaux sociaux et c'est là où j'ai moins envie de mettre en garde mes enfants, c'est de dire il y a un rapport à l'image qui est quand même assez inquiétant sur les réseaux et notamment pour les toutes jeunes générations. Il y a toujours eu ce culte un petit peu de la perfection mais aujourd'hui justement il y a plein de sujets qui se sont démocratisés sur les réseaux, notamment la chirurgie parce que certaines filles, elles ont cette envie, dès le très jeune âge, de se dire « il faut que je sois parfaite », alors que c'est toutes ces choses-là qui, moi, me font peur en tant que maman. Pas en tant qu'influenceuse, mais en tant que maman, en me disant « attention, il y a des sujets qui sont graves, justement, sur les réseaux sociaux et auxquels il faudrait mettre toute cette génération en garde. »
Alors, comment on fait quand on est influenceuse ?
Moi, je parle en tant que mon rôle de maman. Moi, c'est justement de leur expliquer que c'est pas ça réellement la vie. C'est avant de s'identifier à une personne sur les réseaux, il faut avoir sa personnalité. On peut s'inspirer, mais je dis toujours, il faut garder celle qu'on est finalement au fond de soi et puis se dire que tout n'est pas parfait, que la vie, de toute façon, même si sur les réseaux sociaux les gens la partagent et qu'elle paraît parfaite, que la vraie vie, on sait que c'est pas ça. Je crois que c'est le rôle de nous en tant que parents de mettre en garde nos enfants et en leur disant que, enfin moi, j'ai toujours à mes enfants, méfiez-vous toujours de ce qui est partagé sur les réseaux, quoi. C'est ce qu'on vous donne envie de voir, mais on ne sait pas si c'est la réalité.
Et pourtant, vous dites que vous proposez une réalité.
Oui, mais en fait, tout le monde n'est pas forcément. Moi, je suis aussi des gens où c'est à se poser la question, est-ce que c'est la réalité ou pas ? C'est toujours d'avoir... Je suis pas en train de remettre en question ce que les gens partagent sur les réseaux sociaux, mais de me dire, il faut toujours avoir un œil aussi extérieur à tout ça en
un
se disant,
recul,
attends,
quoi.
Voilà, juste prendre un peu de recul sur tout ça.
Vous avez eu des mauvaises expériences ?
J'ai eu des mauvaises expériences, j'ai eu quelques messages qui n'étaient pas forcément des plus plaisants, ça fait partie, je crois que ça fait partie du jeu, ça, il faut vraiment accepter que dans la vraie vie, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc sur les réseaux, quand on a autant de personnes qui vous suivent au quotidien, bah, on ne peut pas plaire non plus à tout le monde, mais encore une fois, c'est là où moi, je prends beaucoup de recul avec tout ça. Et...
Ça ne vous touche pas ?
Non.
Parce qu'on a vu des influenceuses, ou ce qu'on appelait avant des blogueuses, hein, c'est pareil, hein, qui se faisaient massacrer, et qui,
oui.
Il y en a même une qui s'est suicidée. Enfin,
oui, mais justement, c'est là où pour moi, il y a cet effet boule de neige où il faut faire attention. Qu'évidemment, je ne peux pas cracher dans la soupe parce que c'est une partie de mon métier aujourd'hui aussi. Mais je crois que cette mise en garde est réellement de rigueur, justement, pour des personnes qui peuvent être un peu plus fragiles ou un peu plus sensibles à certaines choses.
Se faire prendre dans cette vague, en fait.
C'est ça.
On a l'impression qu'on ne peut plus arrêter de donner du contenu. On est submergé, non ? Enfin, moi, cette histoire de cette femme-là qui s'était suicidée parce qu'elle avait mis sa vie de famille au devant de la scène, puis finalement, elle a divorcé, puis les gens ont pris parti contre elle ou pour elle. Enfin, bref, ça a été un truc
monstrueux. Ah, mais je pense que ça peut réellement être terrible. Ça, c'est des situations auxquelles, par exemple, les stars, de manière générale, ont toujours un petit peu...
Ouais, faire face.
Ouais, être confrontées, en fait, à ce genre de situation. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est pas être une star, mais c'est quelque part aussi cette mise en avant où on peut, à un moment donné, son image peut être salie sur les réseaux et il faut être sacrément, faut être bien accroché justement pour faire face à une telle situation, quoi.
Donc pour ça, c'est quoi ? C'est une vie de famille très soudée ? C'est quoi le secret pour arriver à prendre du recul comme ça ?
Moi, c'est plus, en fait, c'est ce que je vous dis, c'est être en accord avec soi-même et avec ce qu'on partage et se dire que j'ai pas besoin d'avoir l'aval des personnes qui me suivent pour être en accord avec moi-même. C'est que je le suis. Et puis, je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est de dire que mon image me correspond et qu'elle peut plaire ou elle ne peut pas plaire. En fait, je force personne à continuer à me suivre. Moi, je dis toujours aux gens qui, à un moment donné, ont un message pas forcément sympa, je leur dis, vous savez, comme vous avez appuyé sur le bouton vous abonner, vous pouvez vous désabonner.
Vous leur répondez.
Oui. J'entre pas forcément dans le sujet parce que je j'ai pas envie d'y mettre mon énergie, mais je leur dis simplement, belle continuation et puis il suffit de vous désabonner. Mais ça, je pense qu'encore une fois, c'est peut-être plus l'âge qui fait qu'on a plus de facilité à un certain âge à se détacher de ce genre de choses, alors que forcément une ado à 16...
Vous l'avez abordé peut-être aussi comme un métier et non pas comme souvent peut-être au départ un passe-temps ou
oui.
Une espèce de curiosité à voir si les gens vont nous regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit côté un peu malsain aussi de se mettre en avant juste pour voir si les autres regardent.
C'est ça.
Vous, c'était en fait votre métier de mannequin qui s'est prolongé finalement.
C'est ça, et qui s'est transformé, voilà. En fait, c'est ce que je dis toujours, c'est un peu, c'est rester à la page ou faire évoluer les choses avec les, aujourd'hui les nouvelles méthodes ou les nouveaux moyens de communication.
Et on vous a jamais appris? Vous avez appris toute seule?
Toute seule. C'est même des fois maintenant mes enfants qui m'apprennent certaines choses et...
C'est intéressant.
Oui.
Et votre mari voit ça comment? Il se prête au jeu?
Alors, lui, il est loin de toute cette mise en avant parce que c'est quelque chose que lui ne conçoit pas. Mais il n'a jamais voulu mettre un frein à ma vie professionnelle. Donc, c'est quelque chose qu'il accepte. Mais lui, par exemple, ne se met pas... Il n'a pas de compte, il ne se met pas lui-même en avant. Il arrive évidemment qu'il apparaisse dans mes stories. On a même des jobs aujourd'hui où il est lui demandé en famille. Hein, voilà, ça c'est des choses.
Et il accepte.
Et il accepte, voilà. Il se laisse prendre au jeu, mais il n'ouvrira pas de lui-même un compte Instagram pour se dire « Tiens, je vais me lancer dans une carrière d'influence ». Non, non, il est loin de tout ça.
Bon, mais il n'est pas opposé.
Il n'est pas opposé, voilà.
Parce qu'il pourrait vous dire « Non, non, mais tu fais ce que tu veux, mais moi, je n'apparais pas ».
Je connais des influenceuses qui en fait dès le départ ont expliqué que toute la partie vie privée c'était quelque chose qui resterait privé mais sauf que quand je l'ai connue moi c'était déjà comme ça,
ouais.
Donc c'était presque difficile de faire marche arrière et puis voilà c'est moi donc c'était m'accepter comme je suis et
donc vous lui avez dit voilà moi je suis je me montre un peu sur les réseaux.
Il le savait.
Présenter. Ah oui.
Il le savait. Alors j'ai pas fait de manière officielle où je me suis dit je vais le présenter, mais au fur et à mesure des choses, ça a aussi suscité la curiosité, c'est de se dire tiens, elle partage sa vie avec quelqu'un.
Ah oui,
avec
forcément.
Qui, voilà, et ça s'est fait naturellement.
Et quand vous sortez, quand vous allez au restaurant, quand vous sortez dans la rue, on vous reconnaît.
Il y a ces moments gênants, effectivement, où on me reconnaît au restaurant ou à la caisse du supermarché ou autre. Ça fait toujours sourire, justement, mes enfants ou mon mari. Mais je ne le prends pas au sérieux parce que, justement, je crois que j'ai ce côté humble qui fait que c'est presque plus gênant pour moi qu'autre chose. Alors que, quelque part, j'ai
ça
pas de...
Ça ne vous fait pas plaisir.
Ça me fait plaisir de rencontrer les gens qui me suivent, mais j'ai ce côté où je me dis, en fait, je ne suis pas une star, je suis comme vous, quoi. Je suis comme vous, sauf qu'effectivement, je partage mon quotidien.
Enfin, vous êtes comme nous, suivi de 13 000 personnes tous les jours.
Ouais, mais,
ça crée une différence.
Voilà, mais pour moi, c'est toujours... j'ai toujours aux gens, je dis, venez m'aborder, venez me dire bonjour, venez discuter avec moi, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas venir me parler en disant, non, non, mon Dieu, il y a ce côté ouais, un petit peu personne connue, alors que moi, je dis non, pas du tout. Voilà, ça fait juste partie de mon métier.
Et vos parents, ils vous suivent?
Mes parents me suivent, évidemment.
Comme d'habitude.
Voilà, oui.
Comme d'habitude.
Ouais.
Ben, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. C'est vrai que moi, j'étais curieuse hein, de connaître un petit peu l'envers du décor.
Oui.
Parce que Instagram... Alors, vous n'êtes pas sur TikTok, vous êtes uniquement sur Instagram?
Non, je suis trop vieille pour TikTok.
Trop vieille, hein. Bon, d'accord. Donc, uniquement Instagram.
Voilà.
Et votre compte s'appelle comment? Parce que ceux qui nous écoutent...
C'est @mademoisellesof.
Mademoiselle Sof.
Voilà.
Donc, on peut vous suivre sur Instagram.
C'est
on
ça.
On peut tout connaître de vous ou presque.
Voilà.
En tout ce que vous voulez bien nous livrer. Et si j'ai bien compris, c'est quand même un métier que vous n'imaginez pas poursuivre ad vitam aeternam. Comment vous voyez les choses?
Non, je ne crois pas que ce n'est pas que je n'ai pas envie de le poursuivre, mais en fait, je vais me laisser porter par les choses. D'accord. Et je vais, voilà, on verra. Aussi longtemps que j'ai besoin de faire les choses avec passion. Donc, aussi longtemps que ça va me passionner, que je vais trouver ça intéressant, je le ferai. Et puis, le jour où j'aurai plus envie, j'arrêterai. Ce sera, à mon avis, un grand vide dans mon quotidien parce que, bah, il y a quand même.
Ça prend du temps.
Ça prend du temps. Mais voilà, je me laisse porter par les choses et on verra.
Et vous vous voyez avec d'autres influenceuses, je sais pas moi, vous communiquez, vous partagez.
On communique.
Donnez des conseils.
Voilà, on communique, on échange. Après, il y a des gens avec lesquels on est lié d'amitié, d'autres moins. C'est vraiment comme dans la vraie vie, au travail, où vous êtes amené à rencontrer du monde professionnellement. Voilà, c'est des collègues. Avec certains, vous avez plus d'affinités, ouais. Avec d'autres moins. Faut vraiment le comparer à. C'est comme dans la vraie vie. Toutes les problématiques qu'on peut rencontrer en entreprise, c'est celles qu'on rencontre sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, voilà. Ouais. C'est qu'il y a de la jalousie, ça fait partie. Je crois que ça fait encore une fois partie des choses de la vie, qu'on soit sur les réseaux ou non.
Ben merci beaucoup de nous avoir partagé ça.
Merci à vous, Caroline.
Sophie, ce podcast s'appelle Le Podium. Ah, le podium, vous êtes une habituée des podiums, vous êtes en haut du podium aujourd'hui. Qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur votre podium ?
Je crois qu'effectivement, ce seraient mes enfants, mais les faire monter sur le podium plus pour un petit peu leur montrer mon chemin de vie et leur dire que il y a ce côté justement, moi, volonté de ne pas abandonner, de ne pas dire que croire en ses rêves finalement. Et de se dire qu'il n'y a pas de limite, que ce soit d'âge ou de moment, ou de. On peut monter à n'importe quel moment sur le podium si on a réellement cette volonté.
C'est un beau message. Ben, j'espère qu'ils vont écouter ce podcast. Hein ? Merci beaucoup, Sophie.
Merci à vous.
Succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.